Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Chers auditeurs, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séquence éphéméride de l'émission Un jour dans l'histoire. La date à laquelle nous nous intéressons dans l'émission d'aujourd'hui met en lumière un moment où l'histoire a hésité. Bien souvent, ces hésitations ne sont que de mauvais présages. C'est ce que nous allons voir avec cette journée du 23 octobre 1812, où un homme quasiment seul, le général Mallet, lance un coup d'État contre Napoléon et son système. À première vue, il ne s'agit de rien de grave, un extravagant complot, monté par un fou arrêté en quelques heures. Mais les faits se révèlent plus complexes et soulèvent de nombreuses questions. Tout d'abord, le général Mallet était-il vraiment si fou ? Se pose aussi la question de ses soutiens, agit-il pour quelqu'un ? Quant à la tentative en elle-même, a-t-elle vraiment déstabilisé le régime impérial ? Et enfin, que révèle cette conspiration ? C'est à toutes ces questions que Thierry Lenz propose de répondre dans son ouvrage « La conspiration du général Mallet » paru chez Perrin. Thierry Lenz est notre invité dans cette émission. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour Laetitia.
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, spécialiste du Premier Empire et auteur de nombreux ouvrages de référence sur la période. Mais donc nous allons parler de la tentative du général Mallet, donc ce 23 octobre 1812. Et tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous penché sur cet épisode qui peut paraître quelque peu anecdotique ?
Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que approchait les bicentenaires de 1812 et que je me suis dit que je n'allais pas ajouter un nouveau livre sur la campagne de Russie parce que je savais notamment que Marie-Pierre Rey préparait le sien et qu'il serait sans doute assez définitif sur le sujet. Et puis la deuxième question, c'est que cette affaire du général Mallet nous permet d'entrer dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui est le domaine de l'organisation de l'État, on va dire du droit constitutionnel, du droit de la succession. Et cette affaire a révélé, par l'absurde, la difficulté pour Napoléon d'avoir sa légitimité et qu'au fond, très naturellement, après Napoléon Ier, il y ait Napoléon II, III, IV, etc.
Alors nous allons détailler un peu ce qui s'est passé ce 23 octobre. Et déjà, commençons par parler par l'acteur principal, le général Mallet. Il a souvent été présenté comme un conspirateur né, sans suite dans les idées. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça ?
Alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord, et notamment il y a un élément que je conteste, c'est la folie du général Mallet. Alors effectivement, les napoléoniens vous diront il fallait être fou pour s'attaquer à Napoléon. Effectivement, le général Mallet n'a probablement pas toute sa tête au sens où il n'est pas d'un équilibre certain, mais le seul fait d'observer la façon dont il a organisé sa conspiration, la façon dont il l'a conduite, prouve quand même qu'il avait en tout cas une grande intelligence de conspirateur et que, au fond, ce qui a été fou dans sa tentative, dans son attitude, c'est d'avoir pensé que les tout petits moyens qu'il avait mis au service de sa conspiration pourraient fonctionner. Alors, je corrige encore ce que je viens de dire en disant que, avec ses tout petits moyens, il a quand même, passez-moi l'expression, mis le bazar dans Paris pendant une journée. Et il a provoqué, par ricochet, le retour de Napoléon, qui a abandonné son armée, qui était en pleine retraite de Russie à ce moment-là.
Mais donc, le général Mallet était quand même un conspirateur.
Ça, on ne peut pas dire le contraire.
En 1812, au moment donc, du coup d'État, il est quand même un pensionnaire de la maison de santé du Buisson. Et il avait été emprisonné quelques années auparavant pour une première conspiration.
Voilà, oui, c'est effectivement un conspirateur récidiviste. Bon, d'abord, il faut juste rappeler sa carrière. Donc, le général Mallet est un général qui a été nommé par Napoléon au tout début du consulat et qui avait eu une carrière militaire assez chaotique parce qu'il avait commencé cette carrière dans les mousquetaires du roi avant la Révolution. Il avait donc été licencié une première fois. Et puis, quand on l'avait repris dans les armées, on l'avait nommé dans des états-majors, preuve d'ailleurs qu'il avait un certain sens de l'organisation. Il avait toujours été nommé dans des états-majors et les états-majors, il y avait une grande flexibilité de l'emploi en fonction de sommes-nous en guerre ou pas en guerre. On a moins besoin d'états-majors lorsqu'on n'est pas en guerre et à plusieurs reprises pendant la Révolution, il a subi ces réductions d'effectifs, il a été licencié. Alors il en a conçu une énorme amertume en disant « mais au fond, On ne reconnaît pas mes qualités, on ne reconnaît pas mes qualités d'organisateur, mes qualités de soldat, ce serait plus à démontrer. Et donc, partant de là, il a été un homme amer tout au long de sa vie. Il y a même un autre épisode qui renforce son amertume, c'est qu'il a été élu au Conseil des 500 au moment de Fructidor, et il a été fructidorisé, c'est-à-dire qu'élu, il n'a pas pu aller siéger au Conseil des 500. Donc tout ça a favorisé chez lui une grande déception, une amertume. Nommé général, on l'a envoyé commander des divisions militaires, on l'a nommé quasi-gouverneur de Rome. Il a commis beaucoup d'erreurs, il a commis des malversations. Et ça a été son dernier licenciement, si je puis dire, à la fin de l'année 1807. Alors partant de là, eh bien, il a monté une première conspiration qui a été comme le brouillon de la suivante. Je pense que nous n'avons pas le temps d'en donner tous les détails. Mais c'est déjà une conspiration qui a provoqué des remous extrêmement importants à l'intérieur de l'exécutif parce qu'elle avait été démasquée par le préfet de police de Paris, Dubois, qui avait directement prévenu l'empereur alors que Fouché ne l'avait pas fait. Ça a été, je dirais, un des éléments qui a amené ensuite la chute de Fouché. Mais bon, comme c'était une conspiration qui, là, n'était jamais passée au stade de l'exécution, on a arrêté tout le monde, on a emprisonné pas mal de gens. Et Mallet, lui, a obtenu, après 2 ans de détention dans des prisons, un régime de faveur en étant orienté vers la fameuse maison de santé du docteur Dubuisson, qui était en fait un établissement, globalement un établissement psychiatrique, mais qui possédait un bâtiment qui était réservé aux prisonniers d'État, où Mallet a donc été enfermé en compagnie de quelques autres joyeuderies dont on va sans doute dire un mot.
Voilà, donc en 1812, les nouvelles de la Russie ne sont pas excellentes et ça lui donne l'idée de refaire un coup d'État.
Voilà. Alors, au moment où il est entré en 1810 à la maison Dubuisson, il a tout de suite recommencé à comploter parce que, évidemment, il fallait abattre ce régime qui ne reconnaissait pas ses qualités. Mais il s'est mis à comploter cette fois-ci en tirant les leçons de la conspiration précédente, en disant, comme il y a eu beaucoup de bavards dans cette conspiration, je vais faire tout ça tout seul. Et donc, il s'est mis à travailler dans sa chambre, seul. Alors, il faut dire que la maison du docteur Dubuisson n'était pas une prison. On entrait et on sortait de là à peu près comme dans un moulin. Donc, il pouvait recevoir sa femme, d'anciens complices, des amis, etc. Ce qui fait qu'il a obtenu au fur et à mesure du matériel, du papier, voire même du papier timbré, pour commencer à rédiger de fausses proclamations, de faux ordres, etc.
Oui, parce que quel est son plan ?
Alors, son plan, c'était de faire croire que Napoléon était mort, donc mort en Russie, hein, en l'espèce, et que le Sénat avait, par un senatus consulte, modifié la Constitution en proclamant l'avènement d'un gouvernement provisoire. Alors, gouvernement provisoire qui était composé, alors en 1808, d'éléments exclusivement républicains, en 1812, d'éléments exclusivement républicains avec quelques royalistes, ce qui nous entraînera à analyser un petit peu le fond de la conspiration. Et partant de là, avec tout ça, il envisageait de soulever la garnison de Paris, de prendre le contrôle de Paris et de mettre véritablement en place ce gouvernement provisoire dont évidemment les membres n'étaient même pas au courant qu'on avait couché leur nom sur un bout de papier.
Alors, quels sont ses complices dans l'affaire ?
Alors, il y a plusieurs catégories de complices chez Mallet. Il y a d'abord les gens qu'il rencontre chez Dubuisson qui sont de francs royalistes. Il y a Jules de Polignac, il y a le marquis de Brûlart. Mais eux, ils sentent tout de suite que le personnage est un peu sulfureux. Ils sont tous détenus sur parole, c'est-à-dire qu'ils ont juré de ne pas essayer ni de comploter ni de s'évader. Donc, on peut dire globalement, ils respectent leurs paroles jusqu'au moment où arrive un nouveau larron qui est l'abbé Lafond. L'abbé Lafond est un royaliste emprisonné à la suite de son opposition au régime sur fond d'affaires religieuses, qu'on installe à la maison Dubuisson et qui immédiatement sympathise avec Mallet et va beaucoup l'aider à l'organisation de la conspiration. Ça, c'est, je dirais, le principal complice direct. Et puis, il y a 2 séries de complices. D'abord, une équipe qui est composée de briques et de brocs. Je sais que Jean Tullard a horreur que je dise qu'il s'agit des pieds nickelés parce que, dit-il, les pieds nickelés, eux, auraient probablement réussi leur coup d'État. Mais il se trouve quand même que quand on regarde ces 3 complices, un jeune étudiant en droit qui, Mallet, promet de devenir commissaire de police, un jeune caporal de la garde de Paris à qui Mallet promet qu'il aura une promotion absolument phénoménale dans les armées et qui le croit, et puis un prêtre espagnol, alors là pour le coup totalement fou, qui va en ville monter le quartier général en quelque sorte de la conspiration. Alors là, ces 3-là ne sont au courant de rien. Et Mallet va essayer d'attirer dans la conspiration des personnages de plus grande envergure, et notamment 2 généraux qui sont détenus politiques dans une prison parisienne, le général Lahori et le général Guidal. Alors le général Lahori, on le connaît, enfin on a entendu parler de lui parce qu'il a été l'amant de la mère de Victor Hugo et Une certaine légende voudrait qu'il soit le père de Victor Hugo, lequel Victor Hugo d'ailleurs s'appelle Victor en honneur de son parrain Lahorie. Bon, les biographes de Victor Hugo nous conseillent de ne pas croire à cette légende. Bon, Lahorie, Guidal vont être attirés dans la conspiration, eux aussi, sans savoir ce qui se passe. Et c'est ça le génie de Mallet, c'est qu'il va faire fonctionner le système alors qu'il y a deux personnes qui sont au courant, lui-même et l'abbé Lafont.
Alors il a son plan, les hommes, il ne reste plus qu'à passer à l'action et c'est ce que nous verrons après une courte pause. Merci.
Les deux photographes de l'Académie des Beaux-Arts, Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand, se livrent au micro de Canal Académie pour vous donner leur regard respectif sur l'univers de la photo. Rencontrés au musée Marmottan Monet où une exposition leur était consacrée, la Camargue natale de Lucien Clergue et le Paris vu du ciel de Yann Arthus-Bertrand sont à l'honneur. Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand, regard croisé inattendu en terre impressionniste, une émission Carrefour des Arts à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, nous sommes toujours en compagnie de Thierry Lenz, avec qui nous évoquons la conspiration du général Mallet le 23 octobre 1812. Donc après avoir vu les prémices, passons au jour J, à ce 23 octobre 1812. C'est donc dans la nuit du 22 au 23 que le général Mallet quitte la maison de santé du docteur Dubuisson. Et que va-t-il se passer ?
Alors il va se passer que tout, dans un premier temps, va se passer comme Mallet l'avait prévu. Il a rédigé de faux ordres pour la garnison de Paris, il a rédigé de faux senatus consultes, et la première action va être de se rendre dans une cohorte de la garde nationale où on réveille le commandant, on lui annonce la mort de Napoléon, la proclamation d'un gouvernement provisoire, et ce commandant, sans se poser plus de questions, met l'ensemble de sa cohorte à la disposition de Mallet, ça fait un petit millier de soldats.
Mais il était malade.
Alors c'est vrai qu'il rentrait, il était malade, il avait une nuit un petit peu difficile, mais si vous voulez, la suite montrera qu'il aurait mieux fait de se soigner plus tôt, parce que ce commandant, le commandant Soulier, va finir devant le peloton d'exécution avec quelques autres. Alors voici Mallet, fort d'une troupe, il se rend à la prison de la Force, le concierge reçoit ses ordres, il doit libérer le général Lahorie, le général Guidal, plus deux colonels, mais qui, eux, comprennent tout de suite que cette affaire ne fonctionnera pas et s'évadent, et vont prévenir les autorités. Et Lahorie et Guidal reçoivent chacun une mission particulière dans Paris. Alors, on va faire simple, mais vous allez voir que ça va aller très très loin, puisque dans ce tout début de matinée, il est 6h, 7h du matin, Guidal et Lahorie, avec une première cohorte de soldats, arrête le préfet de police Pasquier, arrête le chef de la police secrète Desmarais et arrête, sans aucune difficulté, le ministre de la police générale en personne, général Savary, duc de Rovigo.
Dans les trois cas, il est d'ailleurs étonnant de voir avec quelle rapidité ils ont accès directement aux hommes.
Oui, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre à notre époque parce que les ministres n'étaient pas gardés, tout simplement. On avait confiance, on était au milieu de la population. Il y avait une petite garde qui était composée de vétérans qui étaient là pour faire simplement une garde d'honneur. Et effectivement, lorsque les conspirateurs se sont présentés dans les trois lieux, et notamment le ministère de la police générale, ils ont pu y entrer, mais alors sans aucune difficulté, et se saisir des trois hommes qu'ils ont envoyé à la prison de la Force. Alors, comme je vous laisse imaginer la tête du directeur de la prison, le directeur de la prison qui s'appelait Beau et qui est un personnage connu pour ceux qui ont beaucoup lu en histoire, puisque ça a été le geôlier de Marie-Antoinette. Et il voit arriver, alors après avoir libéré Lahorie et Guidal, il voit arriver le ministre, le préfet de police et le chef de la police secrète. Ça, c'est la première phase de la conspiration qui aurait dû se poursuivre par l'arrestation de Cambacérès, l'archichancelier de l'Empire, qui exerçait le pouvoir en l'absence de Napoléon, mais qui n'aura pas lieu pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on va essaimer différents collaborateurs dans ces postes qui ont été libérés. Donc, le fameux étudiant en droit qui s'appelait Boutreux, dont je vous parlais tout à l'heure, va devenir préfet de police de Paris. Donc, c'est encore même mieux que commissaire de police. Lahorie est nommé ministre de la police générale. Il s'installe dans le bureau de Savary, mais il attend parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et le général Guidal, qui doit aller arrêter Cambacérès, se pose des questions en cours de route sur cette affaire. Mais dans quelle affaire ai-je mis les pieds ? Et puis finalement, il a une sorte d'éclair. Alors sans doute le jour vient de se lever, donc il voit un petit peu plus clair. Et il décide de ne pas aller arrêter Cambacérès, mais préfère aller dans les cafés et dans les auberges parisiennes où il va s'enivrer pendant tout le reste de la journée, ce qui fait qu'il n'ira jamais arrêter Cambacérès.
Alors on a perdu de vue un peu le général Mallet, parce qu'il se réservait le plus beau rôle.
Voilà, général Mallet se réservait le plus beau rôle, qui était d'aller prendre possession du gouvernement militaire de Paris, c'est-à-dire des troupes de la ville de Paris, donc c'était effectivement très très important, et donc d'aller arrêter le gouverneur militaire de Paris qui s'appelait le général Hulin. Et donc, à l'époque, le gouvernement militaire de Paris se trouvait place Vendôme. Donc, il se présente place Vendôme, il fait cerner les bureaux et il se rend à l'hôtel particulier du général Hulin pour lui annoncer qu'il est révoqué et que dorénavant, c'est lui, Mallet, qui va prendre sa place. Alors, les choses se passent mal puisque, pour tout un tas de raisons, le général Hulin se met à douter de la parole de Mallet. Et à ce moment-là, il lui demande de montrer des ordres écrits et Mallet sort un pistolet et lui dit « Mes ordres, les voici ». Et il tire dans la tête du général qui s'effondre dans une mare de sang. Alors pour la petite
histoire,
qui n'est
pas mort.
Voilà, il ne mourra pas, il va être soigné, mais on n'arrivera pas à extraire la balle qu'il a reçue dans la mâchoire. Et le peuple parisien, qui est toujours avide de bons mots, l'appellera désormais le général Bouffe la balle, surnom qui va lui rester jusqu'au bout. Alors Mallet pense qu'il a tué Hulin, il se rend désormais au bureau de la garnison de Paris, du gouvernement militaire de Paris, et là, il va tomber sur deux officiers, deux vieux officiers de la garde de Paris, deux vieux routiers du maintien de l'ordre dans la capitale, qui dès qu'ils le voient arriver, le reconnaissent, comprennent immédiatement qu'il est en train d'essayer de rejouer le coup de 1808 et qu'il arrête. Là, il est 8h du matin, en principe, la conspiration est terminée puisque les principaux protagonistes vont être désormais arrêtés.
Alors dans tout ça, nous n'avons pas parlé de Frochot. Pourtant, sa conduite est exemplaire aussi.
Oui. Alors Frochot, à l'époque, c'est le préfet de la Seine, c'est-à-dire celui qui dirige les administrations, sauf la police, de Paris. Et donc, dans les missions qui avaient été confiées par Mallet à ses lieutenants, il y avait une petite escouade qui devait se rendre à la préfecture de la Seine, qui était à l'époque l'hôtel de ville de Paris, pour demander au préfet de la Seine qui figurait dans la liste des membres du gouvernement provisoire, ce qui a peut-être contribué à le convaincre, de préparer les lieux pour que le gouvernement provisoire puisse se réunir. Et le préfet Frochot et ses collaborateurs ont commis une erreur majeure, c'est qu'ils n'ont pas posé plus de questions. Et ils se sont mis immédiatement à la disposition du gouvernement provisoire, les uns préparant le grand salon pour le conseil, les autres des bureaux pour que chacun des membres puisse disposer d'un lieu pour travailler. Et en fait, une fois la conspiration abattue, on va encore avoir beaucoup de difficultés à convaincre Frochot de libérer l'hôtel de ville parce que lui, il a décidément décidé, si je puis dire, que Napoléon était mort et qu'il y avait un gouvernement provisoire.
Donc une fois le général Mallet neutralisé, arrêté, Cambacérès va donc découvrir très rapidement toute l'affaire et vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le rôle et les bonnes mesures qu'a immédiatement pris Cambacérès.
Oui, alors l'affaire Mallet, qui a été étudiée par beaucoup d'historiens, mais qui n'avait pas été étudiée depuis assez longtemps, a fait l'objet de plusieurs légendes. Alors la légende de la folie de Mallet, par exemple, mais aussi la légende du fait que Cambacérès aurait eu peur, qu'il aurait appelé, par exemple, il y a une anecdote qui veut qu'il ait appelé son coiffeur pour être bien coiffé au moment où on le ferait monter à l'échafaud, etc. Alors, tout ça a été répandu, répété, notamment par un littérateur bien connu dans cette maison qui s'appelle Charles Nodier, puisqu'il a été membre de l'Académie française, qui lui a écrit véritablement un conte de fées sur l'affaire Mallet, qui a été recopié pendant un siècle et demi par les historiens. C'est une des tâches que je m'étais assigné, c'est d'aller vérifier les dires de Nodier. En fait, les dires de Nodier sont tous parfaitement inventés. Enfin, en tout cas, au vu des archives. Alors, Cambacérès, loin d'avoir peur, loin d'avoir perdu son sang-froid, il a au contraire pris immédiatement les mesures qu'il fallait prendre. D'abord, il a appelé le général Clark, qui était ministre de la guerre, et ensemble, ils ont renforcé la garde au Sénat, à la trésorerie de l'État, etc. Ils ont envoyé une escouade de la garde impériale renforcer la garde du château de Saint-Cloud, où étaient Marie-Louise et le roi de Rome. Et donc, ensuite, lorsque Mallet a été arrêté, il a immédiatement envoyé les sbires à la chasse de tout le monde. Donc, il a fait ce qu'il fallait.
Et donc, on n'a pas encore parlé de Napoléon dans l'affaire, puisqu'il n'est pas au courant. Il prendra l'affaire finalement assez longtemps après.
Oui, alors on lui envoie immédiatement des messagers, mais on lui envoie des messagers et on attend d'avoir un dossier quand même à lui transmettre, ce qui fait qu'il connaît l'affaire Mallet vers le 5 ou le 6 novembre 1812, au moment où lui est encore en Russie. Il n'a même pas encore franchi la Bérézina, c'est dire qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Alors là, les témoignages sont assez contrastés, c'est-à-dire que certains des témoins disent qu'il s'est mis en colère, d'autres qu'il a été un peu abattu, et puis d'autres encore disent, puisqu'il apprend immédiatement qu'on a très vite, on en dira deux mots, jugé et fusillé un certain nombre de conjurés, il va dire que de sang, que de sang, que de sang, etc. Enfin bref, on dit que lui aurait probablement préféré qu'on garde tout le monde sous les verrous pour faire une longue enquête. Alors, il se trouve que, contre cette légende, nous avons la correspondance de Napoléon de cette époque, et notamment une partie de cette correspondance interceptée par les Cosaques, et on s'aperçoit que Napoléon a immédiatement donné des ordres d'extrême sévérité. C'est-à-dire qu'il a donc félicité Cambacérès de l'exécution rapide des coupables, il lui a reproché d'avoir fait grâce à deux d'entre eux pour des raisons un petit peu particulières, et puis il a surtout ordonné que la cohorte de la garde nationale et la garde de Paris, qui s'était à un moment jointe aux conjurés, soient envoyées dans des endroits, soient militarisées d'abord. Rappelons que ce n'étaient pas des vrais militaires, ils ont été militarisés. Une partie a été envoyée combler les marais à Flessingue, où il y avait les fièvres, la malaria, etc. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et l'autre partie a été envoyée sur le front, si l'on peut dire, puisqu'ils ont combattu et ont été disloqués pendant la campagne de 1813. Donc, Napoléon immédiatement a senti que c'était une petite affaire d'ordre public et qu'il convenait de la réprimer très sévèrement, mais il a mené aussi une réflexion sur ce que ça signifiait. Parce que aucun des dignitaires à qui on avait annoncé la mort de l'empereur n'avait pensé à prononcer la fameuse phrase « L'empereur est mort, vive l'empereur !» et donc à proclamer empereur Napoléon II, le roi de Rome, qui était quand même à 10 km de l'endroit où se passait la conspiration. Et c'est ça surtout qui l'a choqué, et je pense que c'est en cela que l'affaire Mallet, mis à part que c'est une affaire amusante, où on y découvre des personnages tout à fait croquignolets, si je puis dire, l'affaire Mallet révèle aussi une faiblesse de la légitimité impériale.
Et une faiblesse que Napoléon va essayer de corriger à son retour, et finalement, il n'y parviendra pas.
Voilà, il ne parvient pas, parce que dans les mesures que prend Napoléon à son retour, bon, la première, c'est de, quand même de renvoyer le préfet Frochot, enfin bon, là, on peut le comprendre. Il pardonne aux autres, en revanche, il pardonne à Savary, il pardonne à Pasquier, etc. Il leur fait de sévères reproches de ne pas faire garder leur hôtel. Et on verra d'ailleurs que par la suite, Savary, on a des lettres de lui, il fera renforcer tout ça. Il décore le général Hulin, les officiers de la garnison de Paris qui ont fait échouer la conspiration. Et puis surtout, il provoque très rapidement, puisqu'il rentre en décembre 1812 et le texte est voté à la mi-février 1813, une réforme de la Constitution qui réforme la régence. C'est-à-dire que jusqu'alors, quand Napoléon partait au front ou en campagne, il n'y avait pas de régent. Il faisait un ordre de service, c'est-à-dire pratiquement une note interne en quelque sorte, qui confiait le gouvernement du quotidien à Cambacérès, mais n'autorisait pas Cambacérès à prendre des décisions importantes. Il fallait que l'empereur donne son accord. Et là, il s'aperçoit que quand on est aussi loin de Paris, il faut pouvoir prendre des mesures immédiates. Et donc, il décide que l'impératrice sera régente en l'absence de l'empereur. Et c'est une réforme constitutionnelle très très importante et qui aura, alors c'est trop tôt pour en parler, mais en 1814 des conséquences inestimables, puisque Marie-Louise régente sera totalement incapable de maintenir l'Empire, ni à Paris, ni à Blois, ni nulle part ensuite. Rappelons aussi à la décharge de Marie-Louise que c'est une très jeune femme à cette époque, hein, elle a une vingtaine d'années. Les archiduchesses autrichiennes, surtout lorsqu'elles étaient, je dirais, aussi loin dans l'ordre de succession, n'étaient jamais élevées pour exercer le pouvoir. À un peu plus de 20 ans, on lui demande de gouverner un empire, et qui plus est, un empire en crise. Donc, mais bon.
Elle, en tout cas, n'a pas été inquiétée par l'affaire Mallet.
Non, pas du tout, pas du tout. Elle en a même tellement plaisanté, on en vient à se demander si elle se rendait bien compte de ce qui s'était passé.
Pour terminer avec l'affaire Mallet, ce qu'on peut en tirer comme leçon, vous insistez aussi beaucoup sur le rôle que Mallet réservait au Sénat dans son plan, qui donnera en fait des idées à d'autres.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Mallet, il a mis le Sénat au centre de sa conspiration. C'était un senatus consulte qui nommait le gouvernement provisoire. Alors on sait que le Sénat était une instance très importante qui pouvait réviser la Constitution. Et en réalité, ça a donné beaucoup d'idées à ceux qui, en 1814, ont voulu se débarrasser de l'Empire, si l'on peut dire, tout en ayant l'air légitime. Et Talleyrand, dès l'affaire Mallet, trouve que l'idée du Sénat est une idée excellente. Il écrit à une de ses correspondantes « Le Sénat, c'est vraiment très pratique parce que personne ne sait à quoi il sert. » Ça, c'est bien du Talleyrand. Mais lui, il saura s'en servir en 1814 puisque, rappelons-le toujours, c'est le Sénat qui a prononcé la déchéance de Napoléon et qui l'a prononcé d'ailleurs en se fondant sur le serment constitutionnel de Napoléon dont le Sénat disait qu'il ne l'avait pas respecté.
Merci à infiniment Thierry Lenz d'avoir évoqué cette tentative du 23 octobre 1812. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La conspiration du général Mallet, aux éditions Perrin. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.